Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Certains essayent de jouer avec lui, comme il paraît pur et jeune, et puis il est distrait en le faisant parler, et eux, ou en oublie de jouer avec lui. Il se fait prendre par des camionneurs, mais fais attention, parce que ce sont pour la plupart des brutes. Des fois, il aimerait voler un conducteur, mais il n'ose pas, parce qu'il n'est pas assez fort. Il dort dans les champs, la plupart du temps marche dans la campagne, Heureusement qu'il ne pleut pas, le soleil est toujours présent, mais il fait froid et les jours diminuent. Il n'a toujours pas trouvé de moyens pour avoir des vêtements convenables. Les chauffeurs, bien trop heureux de la vie comme ça, ne cherchent pas à l'aider pour qu'il soit mieux habillé. Et puis, ils sont bien trop heureux de le voir comme ça. Il va droit devant lui, sans savoir où il va. De toute façon, il s'en moque. Surtout que le soir, il pense à Mélusine. Elle lui manque. Il sent toujours son corps contre le sien, et ça lui fait mal. Parce qu'il sait que ce sera plus jamais, plus jamais. Les jours passent. Il s'éloigne des villes. Parce que pas assez habillé. Les gens risquent de prévenir les gendarmes. Lorsqu'il peut faire du stop et manger ce qu'il peut, des fruits. Heureusement que c'est la saison des fruits. Ce qu'il ne peut pas faire du stop, il marche pendant des heures. Il lui arrive. C'est bien entendu aussi de faire du stop. Il boit de l'eau dans les ruisseaux. Un jour, il est pris en stop par un homme grand, maigre, cheveux grisonnants, habillé d'un costume gris. L'homme lui demande « Vous allez où comme ça ?» François lui dit « Droit devant moi. » « Vous n'avez pas de famille ?» François lui dit « Oui. » L'homme lui dit, je comprends. Peut-être que tes parents ont divorcé, hein? François lui dit, oui. Je sais ce que tu ressens. Mais tu sais, c'est pas la faute de ton père. S'il n'a pas pu s'occuper de toi comme il le faudrait. Moi j'ai un fils. Et ma femme. Nous sommes divorcés. L'homme soupire et continue. Ça a été dur. Moi, j'aimais bien mon petit. Mais je n'ai peut-être pas été à mon père. Comment aurais-je pu l'être? Je ne le voyais que qu'une fois tous les 15 jours. Et des fois, sa mère me demandait de ne pas le prendre parce qu'il avait ceci ou cela. Pour le bien du petit, j'acceptais. J'avais préparé une belle chambre avec tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il avait besoin. J'ai acheté des vêtements et tout. Mais l'enfant grandissait plus vite que je me l'imaginais. Chaque fois que je lui ferais quelque chose, c'était déjà trop petit. Ça ne correspondait pas à son âge. Je ne le voyais pas grandir. J'aurais voulu lui apprendre des tas de choses, mais il savait déjà. J'étais un père décalé. Maintenant, mon fils est à peu près ton âge. Je n'ai pas vu se transformer. Il s'est transformé d'un coup. J'ai raté son enfance. Je suis représentant d'aspirateur. Meurt toujours sur les routes. Ça aussi, ça m'a empêché de le voir. Et puis sa mère, elle a ligué contre moi, et a dit que j'étais un mauvais père aux gens qui me regardent d'une drôle de façon. Mon fils a fait plusieurs fugues, soi-disant, parce que je suis un mauvais père. Pour lui, c'est à cause de moi qu'il fugue. Mais je ne pouvais pas m'occuper de lui, à
parce qu'elle ne voulait pas qu'ils viennent me voir. Parce que, à cause de son ami, elle me le donnait de moins en moins. Elle voulait que son ami soit un nouveau père pour petit. Elle voulait l'éloigner de moi. Maintenant, je ne vois plus. Et elle a dit que j'étais un mauvais père. Que même, elle le lui a fait comprendre, cette garce. Soupir. Voilà la vie de père et la vérité de les familles recomposées.
Pour comprendre l'homme, l'homme va arrêter sa voiture devant un café. Il dit, je suis obligé de travailler. François lui dit, je comprends. Merci. Avant de sortir de voiture, il donne un baiser sur la joue et lui dit, si mon père avait été comme vous, l'homme le prend, des deux mains lui prend la tête, la met sur sa poitrine. Tu es un brave petit. Attends. Il ouvre le vide-poche de sa voiture et en sort un petit livre de poche. Tiens, je vais le donner à mon fils. Merci. C'est le poème de Rimbaud, l'homme dit. C'est parce que tu lui ressembles. Merci. Et François sort de voiture. Il garde le livre sur lui. Le lit de temps en temps en pensant à l'homme. Il connaît déjà Rimbaud, mais heureux qu'on le compare à lui et heureux de le retrouver. Les jours passent. Ne sait pas où il va, ni dans quelle direction il a pris. Il contourne les villes, villages, pour éviter la gendarmerie, la police, les émeutes, les viols, les vols, etc. Puisque contournant les villes, il aurait été pris plus d'une fois. Malgré qu'il ne la voit pas depuis des mois, la misère est toujours là. Les problèmes, bagarres, toujours les mêmes. Depuis quelque temps, lui vit en dehors de ce monde. Il vit en dehors de toutes ces horreurs. Les villes sont toujours aussi en mauvais état, délabrées, avec des explosions, des émeutes, des feux, la peur, la faim, la mort. Le froid, la maladie, etc. Des fois, des SDF sillonnent le pays. SDF de tout pays, en plus des nôtres. Lorsqu'ils ont faim, attaquent les villes pour les piller. Ils entrent en force dans les villes. Sillonnent les rues en y mettant le feu, tuant, volant, violent, prenant à manger et des objets. De faux comparses, mais leur passage laisse la ville dévastée, en ruine, avec les incendies.
Montez la vite !
D'immeubles, de voitures, de magasins, des cris, des pleurs, des blessés, des morts. Leur passage ressemble en plus sanglant et horrible au passage des Vikings dans nos villes, dans les années villes, dans les années 1000, mais en plus horrible parce qu'ils sont plus nombreux et plus armés. Du sang, des ruines, des morts. C'est que pour la nature, le passage des sauterelles. Puis le SDS, chacun avec son boutin, s'en retourne et vit une vie solitaire. Mais lorsqu'on a décidé, ou un SDF ou un groupe d'SDF a décidé de faire une razzia dans une ville, se passe le mot d'un SDF à l'autre. On va à Bordeaux. Ça te dit, hein? Oui.
Alors, dis-le aux autres. Plus on est, mieux c'est. Et on va bien rigoler.
Et les SDF se donnent le message.
Fermez la portière.
Et ça fait une foule qui se rue sur cette pauvre ville. Mais pourquoi décider d'aller dans cette ville plutôt qu'une autre? Certains pensent que les ordres viennent de la Franc-Blanc. Que c'est eux qui guident les SDF. Piller, détruire, mettre en ruine une ville et tuer le plus de personnes. Des faux SDF les guident. Ce sont des agents de Franc-Blanc. Une fois que la ville est en ruine, c'est plus facile pour la rénover. Et puis le prix du terrain a baissé parce que le propriétaire privé a peur de rester dans une ville dévastée. Lui, François, ne rencontre personne. Et pas un SDF vient lui proposer ce genre de choses. Il est bien trop jeune. Un après-midi, il marche sur une route montagneuse. Il ne sait pas où elle va le mener. Il voit arriver à lui BMW grise. Fait signe pour qu'elle s'arrête. La voiture s'arrête. François va à la portière. Un jeune homme ouvre la glace. Il a les cheveux châtains, épais, a des lunettes en métal, porte une chemise blanche et un pantalon beige. À côté de lui se trouve une autre personne, un homme un peu plus grand, maigre, presque chauve, cheveux châtains, lunettes métal, lui aussi, habillé d'une chemise blanche, d'un pull sans manches en laine blanc et d'un pantalon de montagne marron clair, avec des chaussettes rouges et des chaussures de montagne. Chauffeur demande à François, « Vous désirez ?» François lui dit, « Est-ce que vous pouvez me prendre ? Vous voulez aller où ?» Il lui répond, « Vous allez où ?»« Nous allons en Savoie, au lac de Montrion. Ça vous va ?» François soupire et dit, « Nous sommes en Savoie ?»« Eh bien oui !» Se demande comment il a fait pour se trouver jusque-là. Je lui dis, « Alors, vous montez ?»« Oui, merci. » Il se met sur le siège arrière et le chauffeur met la voiture en route. L'homme qui est à côté du chauffeur se retourne vers François et lui sourit. Le chauffeur lui dit, « Ça va ?» Ça y a le mal, non ? Le chauffeur lui dit, vous, oui. Et voici le fil sur une belle route de montagne, direction Chamonix. Il fait beau soleil, le ciel est très beau. Il y a des sapins. Le bord de la route qui monte. Et elle suit un précipice. Au loin de belles montagnes. Rocheuse au sommet enneigé. On voit aussi quelques villages isolés. Je vous en dis, moi je m'appelle Marc et toi, François. Marc lui dit, mon compagnon c'est Jean-Pierre. Tu viens de loin ? Oui, c'est Paris. Nous c'est Lyon. J'ai loué cette voiture, c'est pour sortir de cette crasse. Jean-Pierre lui dit, aïe Marc, j'ai bien le droit de ne pas aimer voyager, ça me fatigue. Marc lui dit, avec moi, mais tu es bien heureux maintenant. Jean-Pierre lui dit, ne dis rien. Marc lui dit, tu vas bien à Grenoble, voir ce Charles, alors tu peux bien sortir avec moi. Il soupire et dit, quand je pense ce que tu lui écris. Jean-Pierre lui dit, tu n'as pas le droit de lire mes lettres. Tu parles et dire que tu voulais mourir pour ça. Moi, je t'ai demandé et j'attends toujours. Mais tu vas le faire, ce satané suicide. Non? C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Lâche, menteur, sale verlaine. François se sent gêné. Jean-Pierre soupire. Il se retient. Voit le beau paysage. Marc lui dit, arrête. Jean-Pierre lui dit, ça va être gai ces jours. Mais non, le pays magnifique. Demande à François, vous allez où? François lui dit, droit devant moi. Jean-Pierre lui dit, vous avez de la chance. Marc lui dit, tu aimerais bien hein, être avec lui, hein? Jean-Pierre lui dit, alors, ça ne te regarde pas? Il te plaît? Ça suffit. Tu gênes tout le monde. Regarde plutôt le paysage. Il est très beau et arrête. Marc soupire et il boude. De temps en temps, Jean-Pierre regarde François. François sent qu'il le trouve bien à son goût. Il lui sourit sans plus. Il n'aime pas cet homme laid qui semble gauche. Il a l'air ridicule et se demande ce qu'il fait avec ce jeune homme. Ils arrivent à un lac, un grand lac beau entouré de montagnes. y a au bord du lac un grand chalet hôtel. Mardi, nous sommes arrivés au lac de Montréon. Il fait chaud et beau. Il va garer sa voiture près de l'hôtel. Marc demanda à François, vous venez aller avec nous à l'hôtel prendre une chambre? François lui dit, c'est impossible, j'ai pas de quoi. Et puis, comme je suis mis, Jean-Pierre lui dit, ça n'a pas d'importance. Vous venez, vous coucherez dans ma chambre. Marc lui dit, il manquerait plus que ça. Ils sortent de voiture. François lui dit, bon, eh bien, merci. Jean-Pierre lui demande, vous allez aller où? Je ne sais pas, je verrai. Marc lui dit, bon, alors, au revoir. Viens, Jean-Pierre. Et François décide, c'est de faire le tour du lac. Il fait beau et le décor est magnifique. Il marche en réfléchissant. François se dit qu'il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il doit retourner à la vie, que ça suffit comme ça. Mais que faire lorsque l'on est en guenille, sans argent, sans carte? Il faut qu'il trouve un moyen pour être plus présentable. Pour pouvoir se présenter, même pour faire le tapin, habillé comme ça, il n'aura que des clients de seconde zone. Et se prostituer, lui, le garçon le plus beau, le plus charmant, pour mille fois rien, c'est pas possible. C'est dégradant pour lui. Il a trouvé un moyen rapide pour être présentable, pour retourner à Paris et essayer de se faire du fric. Comment faire? Lorsque l'on est en loc, mais que l'on a un corps délicieux, ce qui coche, c'est juste ses vêtements. Mon corps peut passer de partout, donc je dois me présenter sans mes habits. Mais comment? Je pense à tout ça tout en marchant. Et en plus, il a très faim. Bien sûr, il gardera dans son corps la jeune fille avec qui il a vécu. Une chose inoubliable. Il gardera dans son secret. Mais il faut bien qu'il vive. Il passe la nuit au pied du lac, près de la cascade. Il y fait frais. Le bruit de l'eau l'empêche de dormir. La lune éclaire le lac. Et c'est très beau. Il a froid. Se sert de livre comme d'un doudou. Le matin, gelé, il voit le jour se lever. Semant juin, peut-être. Sur le reflet de l'eau, la lumière. etc. Il reste couché dans l'herbe, la faim au ventre. Puis, il va arriver sur le chemin qui longe la berge, un homme bien habillé, avec un costume velours marron, grand, mince, cheveux, châtains, lunettes métal, maigre. Seul, vite, il se déshabille et se met à l'eau. Nage sous l'eau et sort de l'eau comme une apparition, nu, baigné de lumière, beau, la cascade derrière lui. L'homme s'arrête, surpris, ébloui par cette apparition sortant de l'eau. Ce jeune dieu, cet Achille sortant de l'eau, qui le rend invincible et magnifique. L'homme reste ébloui et ne bouge pas. François va à lui et semble marcher à la surface de l'eau, lumineux comme elle. Le corbeau est ruisselant d'eau et de lumière. Il sourit d'un sourire comme seul lui sait. Une fois arrivé vers l'homme, qu'il voit ébloui par lui, il lui dit: bonjour, je n'ai pas de vêtements. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.